Alors là, si on écoute bien, on n'entend presque plus le bruit de la civilisation. On entendait les machines agricoles tout à l'heure quand on est parti. Là, on n'entend presque plus rien, hormis les oiseaux. Et alors, on peut entendre, en tendant l'oreille, quand même, parfois les avions, hein, de haute ligne qui passent au-dessus. C'est vraiment le seul bruit qu'on entend quand on est très loin, isolé dans le marais poitevin. On se croirait presque en Amazonie, avec ce phénomène de voûte là, de végétation au-dessus de l'eau. Il y a des endroits difficiles d'accès, voilà, il faut pousser avec sa rame pour passer. C'est vraiment très sauvage. Voilà, tu vois, ça commence à se refermer. On arrive dans des parties où les berges ne sont plus entretenues. Donc les frênes et les autres arbres qui sont sur la berge pour retenir la terre ont les branches qui vont jusqu'au milieu de l'eau pour certains. Donc ça fait vraiment la fameuse cathédrale de verdure, hein, où on a vraiment une canopée au-dessus de nos têtes. Et l'avantage, voilà, du kayak, hein, c'est que ben, on peut passer au travers des branches, ce qui est moins évident avec une barque. On n'est pas vraiment en Amazonie, mais pour y être déjà allé, je retrouve des similitudes. Bonjour Romain Gaillard. Ce qui m'intéresse moi dans le Marais Poitevin, surtout, c'est découvrir la faune, la flore durant les quatre saisons de l'année, puisque le paysage varie, hein, tout le temps. Donc j'aime bien venir ici pour faire de la photo, de la vidéo et pour le plaisir tout simplement d'être dans le Marais Poitevin, dans cette fameuse Venise verte. C'est le surnom qu'on donne au Marais mouillé, hein, la partie la plus boisée du Marais Poitevin. Et donc ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est vraiment les parties sauvages du Marais Poitevin, très loin des circuits touristiques empruntés par les embarcadères, où s'épanouit la faune plus particulièrement, parce qu'il y a très peu de passages d'hommes, d'humains, dans ces secteurs. Donc c'est assez idéal pour essayer d'apercevoir un maximum d'animaux, être dans l'ambiance faune du Marais Poitevin. En fait, le marais redevient ce qu'il était à l'origine, si on n'entretient pas. Un marais sauvage. Un vrai labyrinthe de canaux. Il y a de quoi se perdre. Quand on connaît pas, il y a certains canaux où en fait il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de nom d'indiqué. Donc on peut très très vite se perdre quand on connaît pas et tourner en rond. Donc on met du temps. Voilà. Autrefois, les anciens, ça leur posait pas de problème de venir mettre leurs animaux sur les terrains du marais, faire des petites cultures maraîchères comme de la mogette, de la salade, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc on peut presque plus y circuler, en tout cas c'est assez compliqué. Et c'est les endroits que je préfère parce que c'est ici qu'on trouve de la faune qui ne s'attend pas vraiment à voir des humains dans ces coins. Donc quand on vient tôt le matin ou en fin de journée, on a beaucoup plus de chances de voir des animaux comme le chevreuil. On a de plus en plus de chevreuils dans le Marais Poitevin. On voit également depuis très peu de temps finalement du sanglier. Voilà, il m'est arrivé d'en rencontrer dans le marais. Des sangliers pour qui les canaux ici pleins d'eau ne leur posent pas de problème parce qu'ils savent très bien nager. Donc ils traversent les canaux, ils vont de parcelle en parcelle et puis ils s'épanouissent dans ces coins où finalement ils ne sont pas du tout dérangés par l'homme. Après, au niveau de la faune typique du Marais Poitevin, on a beaucoup de ragondins, même si à l'origine ils ne viennent pas du Marais Poitevin mais d'Amérique du Sud, puisqu'ils ont été importés en France pour l'élevage, hein, notamment leur peau. Puis ben voilà, comme beaucoup d'élevages, Il y en a certains qui sont échappés ou qui ont été relâchés même intentionnellement dans le marais et aujourd'hui il se plaît très bien dans ce paysage. Donc on en trouve partout du ragondin. On a beaucoup également, depuis qu'il est protégé, surtout de hérons cendrés, qui est un peu le symbole du marais en termes d'oiseaux, de grands oiseaux. Et puis un animal qui est très très difficile à observer, mais qui fait également partie des symboles du marais poitevin, c'est la loutre. On a des loutres dans le marais poitevin. Ce petit animal protégé qui était chassé pour sa fourrure il y a plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, il est protégé et on commence à en voir de plus en plus. Mais c'est compliqué de l'observer parce que c'est un animal qui est surtout nocturne. Donc il sort un peu la journée, mais très rarement. Ah, on a une cigogne qui passe devant nous également. Une très belle cigogne, on reconnaît bien au blanc et au noir. Ça, c'est pareil. Hein. Ce type d'échassier, il y a une dizaine d'années, on en trouvait très peu dans le marais. On en trouvait beaucoup dans le département voisin de la Charente-Maritime. Il y a des nids de cigognes par là-bas. Et puis finalement, il y a des couples qui sont venus s'installer dans le marais poitevin. Ils arrivent à construire des nids sur les peupliers notamment, qui sont donc très hauts comme arbres. Et il y en a certains dont la tête est coupée par la foudre, tout simplement parce que l'arbre est mort et donc le haut se détache. Et ça fait des très bons sites de nidification pour les cigognes. Donc ils viennent nidifier ici et ils trouvent toute la nourriture suffisante pour se nourrir, hein, comme les hérons cendrés, que ce soit les poissons, les grenouilles, les petits mammifères dans les champs. Il y a un vrai vivier de nourriture pour les animaux ici. Et là, finalement, il y a des couples qui ont commencé à nidifier dans le marais. Et puis, ben, les jeunes sont nés finalement dans le marais poitevin, ont enregistré le lieu dans leur tête et ils reviennent maintenant avec des nouveaux couples pour faire des petits. Voilà, c'est fréquent maintenant de les trouver dans le marais. Et elles s'y plaisent très bien. Et donc là, on va aller découvrir les endroits sauvages du marais, les fameuses friches du marais. Et la plupart du temps, ces friches donc sont pas entretenues et le canal qui les borde n'est pas entretenu, c'est-à-dire qu'il s'envase. Le travail de curage n'est plus fait. Donc il y a très peu de fond, il y a 20-30 cm de fond. Et l'avantage du kayak, comme ce que nous avons aujourd'hui, c'est que finalement on peut passer partout.
Le côté spécifique du marais poitevin, c'est que c'est une zone humide. Il y a quelques millénaires, c'était même un golfe marin qui s'est envasé naturellement avec les différents changements climatiques. L'homme a ensuite décidé de le mettre en valeur du fait que la terre était très fertile. Donc il y a eu énormément de travaux de drainage qui ont été mis en place à partir du 12e siècle avec les abbayes. Puis ensuite, il y a eu un vrai travail de drainage à partir du 16e siècle jusqu'au début des années 1920-1930, les derniers travaux de creusement de fossés, de canaux. Et donc la particularité du marais, enfin surtout du marais dit mouillé, qui correspond à environ un tiers de la superficie du marais, c'est qu'il inonde régulièrement l'hiver. Donc très difficile d'avoir un réseau routier permanent et opérationnel. Et donc le réseau de canaux et ce qu'on appelle chez nous des fossés aussi, ou les conches dans les Deux-Sèvres, tout ce petit réseau s'est transformé naturellement en moyen de transport. Et donc la barque s'est trouvée être le moyen pour se déplacer, mais aussi pour travailler, pour transporter les vaches. C'est là un peu l'image d'Épinal du marais poitevin, le transport du foin, mais aussi le transport du lait à travers les laitiers, fruits, légumes, fourrage, transport des animaux. Et le bois aussi, j'ai oublié, le bois aussi, qui était très important pour le chauffage. Je suis Mathieu Bouteiller, animateur au sein de l'association DACTRAD, qui veut dire Développement, Art, Culture et Tradition en Pays Sud-Vendée, et qui a pour but de collecter tout le savoir-faire, finalement les connaissances des habitants du Sud-Vendée autre que ce qu'on retrouve dans les livres et dans les ouvrages, mais plutôt la transmission orale, l'oralité que l'on sauvegarde. L'utilisation de la voiture, la mécanisation, les camions, etc. n'existait pas, tout simplement. Ici, les premiers tracteurs sont arrivés de façon assez générale dans les fermes qu'à partir des années 50. Puis encore, au début, il fallait adapter des tracteurs petits. Alors, je vais citer une marque, ça s'appelait le Pony. Et on a certaines cartes postales où on voit le petit tracteur qui est installé sur la barque pour pouvoir lui donner un accès sur sa parcelle de terrain. C'était le tracteur des années 50 qui était le plus petit et léger qui pouvait être transporté encore en bateau. Le transport des vaches s'est fait, on va dire, de façon traditionnelle, pareil, jusque dans les années 50, 60. Ça a perduré un petit peu plus longtemps dans certains endroits, comme à Coulon, qui a encore, ça perdure toujours. On essaye de maintenir cette activité de la mise en place des vaches dans les prairies à partir du printemps, une fois que le niveau d'eau est redescendu. La difficulté aujourd'hui, c'est bien le contexte des exploitations agricoles qui sont plus du tout les mêmes qu'autrefois. On avait des toutes petites exploitations, quelques vaches, quelques hectares. Maintenant, on est sur des grandes exploitations. Donc, les petites prairies qui se trouvent dans la partie marais mouillée, ce qui correspond au niveau touristique à la Venise verte, là où on peut se promener encore actuellement, n'est malheureusement de plus en plus délaissée et plus du tout utilisée. Donc tout ça fait que maintenant l'utilisation traditionnelle ou pour vivre tout simplement des habitants de la barque a aussi s'est fortement atténuée. Il faut bien s'imaginer que le marais, donc on essaie de s'imaginer, on est dans les années 30. Avant-guerre, le jour de marché, les canaux fourmillaient de barques et d'embarcations. L'exemple que j'ai, c'est le marché de Maran, qui était un des plus importants de la région. Et certaines femmes, souvent les femmes, faisaient plusieurs dizaines de kilomètres en bateau, passaient par exemple le fameux gouffre de l'île d'Elle, c'est là où se croisent la Sèvre Niortaise et la rivière la Vendée. Et il y avait un passage impressionnant de personnes qui allaient donc vendre les produits de leur ferme. Donc ça peut être les œufs, des poules, des légumes, des fruits au marché de Maran. Et donc là, il faut imaginer les canaux où il y avait toute une myriade de petites embarcations. Et on avait la même chose aussi pour le port de Luçon. Les premières traces d'embarcation, on suppose qu'il y a quand même toujours eu une activité de transport par bateau, parce que ce qu'on appelle les barques monolithes, celles qui sont fabriquées d'un seul tenant sur une seule pièce de tronc d'arbre, on sait que c'est connu dans le monde de la préhistoire et néolithique en Occident, en France aussi en particulier. Alors on peut supposer que le marais devait aussi utiliser des embarcations pour pouvoir au moins se déplacer d'un point ou à un autre. Mais il faut surtout s'imaginer que le marais que l'on voit aujourd'hui et ceux d'avant, on va dire, Moyen-Âge, est complètement différent. Très peu d'arbres, on est sur une zone beaucoup plus sauvage, un marécage qui subit encore un petit peu les aléas de la mer de façon assez restreinte, mais il pouvait y avoir un petit peu d'eau salée ou saumâtre qui pouvait remonter, surtout pendant les fortes périodes de marée haute. Un paysage essentiellement constitué, on va dire, de roseaux, donc très très sauvage. Finalement, l'homme devait pouvoir utiliser certaines richesses comme la pêche, la chasse, mais c'est tout, pas d'utilisation agricole. Donc il devait plutôt être en bordure. C'est pour ça que toutes les traces des anciens camps néolithiques se trouvent toujours en bordure du marais, donc sur la partie en hauteur, non exposée aux inondations. Mais après, ils avaient un accès direct aux richesses naturelles du marais. Donc essentiellement, la chasse et la pêche.
Vous voulez que je tienne la barque?
Oui, si vous voulez.
Ce bateau, il y a une histoire. mon beau-père était maréchal Ferrand. Oui. Et c'était une personne très mordue pour la pêche et la chasse. Il a fabriqué son bateau. Et il date 60 ans. Et il est en tôle, oui. Mais j'ai connu, moi, un bateau en béton. Mon grand-père, c'était un bateau en béton.
C'est parfait, ça, comme bateau? C'est l'idéal? Un bateau comme ça, en métal, pour naviguer?
Pour naviguer, c'est vrai, ça glisse bien. Hein. Enfin, aujourd'hui, avec les bateaux en carbone, il n'y a pas d'ancien. Hein. Oui. Autrefois, c'était en béton et en bois. Une barque en bois. La peinture aujourd'hui, je la peins tous les ans. Et la rouille, la peinture. Elle n'est pas si bonne qu'autrefois. Je suis Guy Grimaud. Hein, je suis né où j'habite. Ça va faire 89 ans au mois de septembre. Et donc j'ai vécu. J'ai pas quitté la maison. C'est pour le service militaire, exactement, 2 ans et demi. Et donc j'ai resté au sein de l'exploitation avec mes parents. Et les enfants, ils sont tous nés, ma génération, ils sont tous nés ici. Hein. L'hiver, mais quelquefois, mes parents emmenaient la sage-femme en barque. Ou... Moi, j'ai conduit le docteur en barque, le vétérinaire, l'hiver. Mais les grands-parents, ils avaient une vache, vous voyez, un cochon. Et puis la vache, elle se nourrissait sur la digue. Puis en principe, les gens intéressés, c'était les braconniers. La pêche, la chasse, il y avait de l'anguille à l'époque, la loutre, c'est, attention, hein, l'hiver, l'été ça passait encore, mais il n'y avait pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'eau potable. En forte crue, l'eau passait, c'est arrivé dans ma vie, moi ça est arrivé trois ou quatre fois, ça passait par-dessus la digue, ça inondait de l'autre côté. Et... Ça circulait, ça passait dans la maison. Mais par contre, la barque, on l'attachait presque à la poignée de la porte de la cuisine.
C'est bon.
Finalement, il y a 3 populations dans le Marais. Il y a ceux qui habitaient dans les villages. Des fois, on parlait même de la plaine. Moi, ça m'a toujours fait rire, parce que même si on était sur l'île de Maizet, pour les habitants qui habitaient dans le Marais, on était des gens de la plaine, parce qu'on était sur une partie où on ne risquait pas d'être inondé. Et après, il y avait 2 types de populations qui vivaient vraiment au milieu du Marais, au moins pour le secteur de Maizet, c'était les huttiers et les cabaniers. Alors, les huttiers, c'était des habitants qui avaient le droit de s'installer sur des petites maisons. Au début, on suppose que c'était vraiment des huttes en roseau et en bois très très sommaires, d'où le terme de huttier, des huttes, sur la levée. La levée, c'est ce fameux barrage en terre artificielle qui sépare le marais mouillé du marais desséché. Pour présenter de façon très rapide et schématique, le marais desséché, c'est la partie qui est mise en culture, et la partie marée mouillée, c'est la partie qui sert de zone tampon. C'est-à-dire quand l'eau monte l'hiver, on va faire en sorte que par le jeu des truchements des canaux et des fossés, d'envoyer l'eau vers le marais mouillé, la levée fait barrage et épargne les cultures du desséché. Et donc la fonction première des huttiers était de surveiller l'état régulier de ces levées qui pouvaient très vite s'abîmer. Parce qu'on est sur une terre friable, même s'il y avait tout un réseau de frênes têtards qui maintenaient grâce à leur réseau de racines la levée, le huttier devait déjà avoir une fonction de surveillance et d'alerte, et aussi une fonction d'entretien. Et en contrepartie, il avait le droit d'utiliser sur plusieurs centaines de mètres en amont, en aval de leur maison, l'herbe qui poussait. Donc souvent, il y avait des oies, des moutons, des vaches qui pouvaient praire sur la levée. Et il y avait à peu près de façon régulière, tous les centaines de mètres, une maison de huttier disséminée tout le long de la levée. Et donc ces habitants-là avaient vraiment une vie attachée entièrement au marais. Donc c'était souvent vraiment des habitants spécifiques du marais, des vrais maraîchins, et donc ils avaient une toute petite cellule, on va dire, économique agricole, une à deux vaches, et pour vivre, et finalement ils vivaient aussi de la chasse, de la pêche. Ça pouvait arriver qu'ils vendent ensuite les produits de leur pêche, les fameuses anguilles, dans les marchés de leur village, etc., etc. Donc ça, c'est pour les huttiers. Alors que le cabanier, lui, vivait généralement juste derrière, ou un petit peu plus loin, sur la partie marais desséchée. Et donc, la cabane, c'est le bâtiment qui accueille le fermier, qui n'est pas propriétaire, qui paye un fermage, donc un loyer, pour cultiver les parcelles de culture. Et donc, eux aussi vivaient dans le marais, mais ils étaient sur un espace moins contraignant au niveau de l'eau. Et puis bon, c'était quand même des exploitations agricoles assez importantes. Donc on est sur un mode de vie, on va pas dire plus moderne, mais plus ouvert. Alors que le huttier pouvait vraiment vivre en autarcie, loin du bourg, au milieu de la nature contraignante, et une vie assez particulière. Et que surtout, ils essayaient vraiment de vivre au maximum avec les richesses que pouvait leur procurer la marée.
C'était le Marais Poitevin Sauvage, premier épisode. Avec le photographe Romain Gaillard, l'animateur culturel Mathieu Bouteillé et Guy Grimaud, habitant du Marais. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.